La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là, vous faisiez vos dépôts avec vos cents dans la petite enveloppe. Là. C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une cent d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de cents dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
Cube Radio. La seule certitude à propos de la chance est qu'elle changera.
Bonjour, je suis Vincent Dessureau. Vous écoutez une série balado qui dit à haute voix ce que Denise Bombardier pense haut et fort. Aujourd'hui, les jeux de hasard, une vieille histoire. Première partie. Bonjour, Denise Bombardier.
Bonjour.
Vous allez bien?
Ah, je vais très bien. J'ai envie de vous dire, si vous permettez, que je vais très bien parce que la semaine dernière, j'ai gagné deux fois 1600 et 1500 $ au Casino de Montréal. C'est rare.
Mais combien ça vous a coûté?
Non, pas vraiment, là.
On y reviendra parce que on va parler justement de votre... Moi, ça a été une surprise. Je sais que ça semble être une surprise pour beaucoup de gens que vous rencontrez, de savoir que Denise Bombardier aime, même peut-être passionnément, le jeu. Et là, on parle de jeux de hasard, particulièrement les machines à sous.
Mais moi, j'aime les casinos. J'aime pas jouer au hasard en dehors des casinos. J'achète pas de billets de loterie, des choses comme ça, sauf si c'est à 100 millions, comme aux États-Unis, ou à 500 millions. Puis là, ça a été un milliard récemment, mais j'étais pas là.
À quelques exceptions près.
Ce sont les casinos, oui. Et d'ailleurs, je me suis demandé pourquoi, finalement. Et ça vient de mon enfance. Je l'ai raconté dans mes mémoires. Ma tante Edna, qui était ma marraine, celle qui buvait beaucoup, beaucoup, mais qui était drôle et qui était la plus intelligente des femmes. Ma tante Edna adorait les machines à sous. Et les week-ends, on allait, nous, avec les enfants, on n'a jamais eu d'auto chez moi, mais mon père n'a jamais eu d'auto. Donc, on allait avec eux dans leur vieille Plymouth, mais c'est des vieux bazous, là, parce que je suis vieille.
Avec un banc complet.
Oui, c'est ça, mais bien sûr. Mais ça, les bancs complets, ça date des années 60, jusqu'aux années 60. Ça c'était parfait quand on avait des amoureux.
Oh, oui.
Alors, on n'est pas obligé de s'asseoir entre les deux. Là, tu sais, là. Alors, donc, on allait à la campagne. Et eux, ils arrêtaient les arrêts, hein, les pauses, c'était dans les bars. Et à l'époque, c'était interdit. Évidemment, les machines étaient interdites, mais tolérées. C'était sous Duplessis. Et il y avait des machines à sous avec des cerises. Vous savez, les cerises, les prunes, là. Puis ma tante, elle parlait que de ça. Puis elle arrêtait, elle buvait, mais en même temps, elle jouait aux machines à sous. Et quand elle revenait dans l'auto, nous autres, les enfants, ils nous donnaient un sac de chips, puis on attendait, ça durait des heures, parce qu'il était à l'intérieur du bar, puis il s'amusait. Et des fois, elle gagnait. Quand elle gagnait, elle sortait avec des tablettes de chocolat et tout. Et je crois que ma fascination vient de là. Mais ça a pris du temps avant que j'aille au casino. Moi, quand le casino ici a été ouvert, moi, je suis pas du tout allé au casino. Je suis allé au casino probablement au début de l'an 2000.
Est-ce que c'est là que ça a été un coup de foudre?
Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Quand j'allais à Cannes, au Festival de Cannes, j'accompagnais mon mari qui représentait Radio-Canada. Il y avait le casino, mais là, c'est le casino, à ce moment-là, le casino de Cannes et à Monaco, c'était des casinos très, très chics avec les femmes, comme vous voyez dans les films de James Bond, vous voyez?
Le mythe, vraiment.
Le mythe. Et il n'y avait pas de machine à sous, là. Mais à Monaco, il y en avait. Donc, j'ai déjà joué un peu comme ça, mais c'est tout. Et à un moment donné... J'ai fait le tour du monde avec Céline Dion. En 2008-2009, j'ai passé 9 mois autour du monde. Et vous savez, pour faire la tournée mondiale, dans le but d'écrire le livre que j'ai écrit par la suite sur elle. Et là, évidemment, on avait beaucoup de temps. Parce que une fois que vous avez lu des heures de temps, vous prenez un avion, vous partez d'Afrique du Sud, vous en allez en Corée directement, vous avez 12 heures d'avion, je sais pas combien. On lisait, et bon. Mais à un moment donné, on se lasse de lire, quoi. Et puis, on assistait au spectacle. Mais René Angélil a su que j'aimais ça. Puis à chaque fois, lui, il jouait dans tous les casinos, vous le savez, c'est un très grand joueur.
Sûrement sur des tables qui sont hors de prix.
Ah non, lui, il jouait aux tables. Oui, oui. C'est-à-dire que ce qu'il met sur la table, c'est ce qu'il pouvait mettre lui. Mais il était tellement Il était comme vous, il en revenait pas que j'aime les machines. Puis moi, c'est juste les machines à sous. Autrement dit, le bas de gamme des joueurs.
Okay, donc même lui qui aimait être dans les casinos, oui, était surpris que ce soit les machines,
oui, oui, oui,
préférées.
Et il adorait ça. Et il me disait, à chaque fois qu'on arrivait dans une ville, il me disait, il y a un beau casino, j'en ai un beau. Là. Et une fois, il m'envoyait à Séoul, je me souviens, dans un... Probablement que lui est allé aux étages supérieurs et ça devait être très bien. Mais moi, il m'envoie là, j'ouvre la porte de ça. C'était comme me bouge avec des gueules de mafieux ou de malfrats. J'ai fermé la porte. J'ai même pas osé entrer. Mais j'ai commencé à jouer un peu et c'est vrai que j'adore ça. Moi, je n'ai pas eu d'addiction. Moi, j'ai pas pris de drogue dans ma vie. J'ai pas bu parce que j'ai été élevée par des gens qui buvaient trop. Et j'aurais aucun plaisir si je sentais que je perds le contrôle de ça.
Mais vous souvenez-vous, si avez-vous à un moment donné un gros gain qui a été comme le déclic où vous recherchez après toujours cette adrénaline-là de
non,
la fois où vous avez eu un gros montant?
On l'a dès qu'on entre au casino. Moi, je fais ça pour me laver le cerveau. Parce que pour me reposer de penser, si vous voulez.
Sur pas beaucoup de tâches.
Non. Et je me suis intéressée tout de suite à l'histoire du jeu. Vous savez que je suis sociologue de formation. Moi, j'ai un doctorat en sociologie, puis c'est un phénomène social. Et moi, la raison pour laquelle j'écris le livre, c'est à cause de cette expérience de me promener dans des casinos un peu partout dans le monde. S'il y a des casinos, je vais voir comment ça se passe. C'est dans la nature humaine que d'aimer le jeu et d'être fasciné par le hasard. Et on retrouve des artefacts, des milliers et des milliers d'années, et on a découvert que ils prenaient des osselets, hein, et ils lançaient des osselets par terre pour, à ce moment-là, c'était pour connaître l'avenir. Tu sais, la fascination pour l'astrologie et tout ça, là, mais pour connaître l'avenir. Et bien sûr, ils pouvaient gager, mais ils gageaient quoi? Il n'y avait pas de monnaie à l'époque. Ils gageaient, c'était des coquillages, des choses comme ça. Donc, c'est dans la nature de l'homme que d'essayer de défier le hasard. Ça, c'est fondamental si on veut comprendre pourquoi le jeu a perduré et pourquoi jamais ce besoin de jouer chez l'homme va disparaître. Et alors donc, on peut dire qu'avec la prostitution, dont on dit que c'est le plus vieux métier du monde, qui était considéré comme un vice, et qui est considéré comme un vice encore maintenant, malgré tout, eh bien, il y a un autre vice, c'est le jeu. Et le jeu et la prostitution, ça vient du fond des âges, mais ça n'a jamais, jamais, jamais été quitté comme pratique par les êtres humains. Mais assez rapidement, là on passe des milliers d'années, ça a été contrôlé. Par exemple, chez les Égyptiens, on considérait que c'était un vice. Et on encadrait le jeu, parfois, et on l'interdisait aussi. Ça a été la même chose à l'époque chez les Grecs, exactement la même chose en Grèce, et après chez les Romains. Donc, on s'est méfié de ça. Autrement dit, il y avait des gens qui se rendaient compte que le jeu, c'était une passion. Et comme toutes les passions, il fallait les encadrer.
Est-ce que vous avez l'impression que ça rendait fou, c'était les croyances religieuses de l'époque?
Oh ben, de toute façon, en général, toutes les religions sont contre le jeu. Hein? Vous pouvez juste gager que Dieu existe. Ça les dérange pas. Mais pour le reste, les religions n'interdisent pas. Mais enfin, c'est mal vu. Et ce qui est intéressant, c'est de constater que si vous dites, par exemple, quelqu'un comme moi je l'ai expérimenté tellement de fois, quand les gens savent que j'adore aller dans les casinos jouer aux machines à sous, ils le croient pas. Parce que, pour une raison, il y a plusieurs raisons, mais la raison principale, je crois, c'est que c'est relié à l'argent. Ça a tout à faire avec l'argent. Et l'être humain, vous savez, Freud disait, si vous voulez évaluer, il a dit beaucoup de bêtises, Freud, mais il y a eu cette phrase, si vous voulez évaluer l'équilibre de quelqu'un, vous regardez ses rapports à la sexualité et ses rapports à l'argent. Ça définit l'être humain, on le sait. On connaît des gens, on se dit, mon Dieu, lui, il est radin. Un autre, il veut acheter tout le monde. L'argent rend fou. On porte des jugements moraux alors que vous racontez, en France, vous racontez, un homme raconte qu'il y a des maîtresses, ça dérange personne, mais s'il est un joueur, c'est différent. Et les comportements sont différents dans les casinos aussi. C'est intéressant d'aller d'un pays à l'autre pour voir les comportements des casinos. Donc, les casinos, c'est pour ça qu'il y a une stimulation aussi qui se fait dans le casino. Il y a une censure en même temps. Il y a des pancartes, c'est marqué si vous êtes accro, si vous avez des problèmes de jeu, téléphonez.
C'est pas un peu hypocrite? Particulièrement au Québec, où bon, c'est le gouvernement qui gère ça, mais oui. C'est bon, tout est fait pour qu'on mette un autre dollar, mais c'est
mais le jour où le Parti québécois a été élu, hein, après, moi je me suis dit, il me semble qu'ils vont fermer ça, les casinos. Pensez-vous, qui va fermer les casinos quand ça rapporte des milliards à l'État pour payer la sécurité sociale, pour payer, c'est sûr, et puis il n'y a pas un gouvernement qui fermerait ça. Moi, je pense que Québec solidaire serait élu qui ne fermerait pas les casinos. Parce que c'est une source. Et en plus, n'oubliez pas, à partir du moment où vous les légalisez, vous pouvez faire la fine bouche puis dire non, puis c'est pas bien, puis c'est pas des gens bien, puis c'est des tarés qui vont au casino. Mais ce sont des impôts volontaires indirects. Mais volontaires. Personne n'est forcé d'aller dans un casino. Alors à ce moment-là, il y a personne dans nos pays, parce qu'il y a des pays où c'est interdit. Par exemple, dans la plupart des pays musulmans, il y a pas de casino. Enfin, ils jouent pareil, mais ils jouent derrière des portes, ils jouent derrière des rideaux. Mais bien sûr, ben si on pense que l'acte de jouer est un acte qui vient du fond des âges, c'est évident qu'ils jouent comme tout le monde et qu'ils veulent défier le hasard. Mais donc dans nos pays, ça va jamais changer.
Les tables, parce que vous parlez des tables qui sont plus populaires, est-ce qu'il n'y a pas le côté social qui est positif par rapport à être tout seul devant sa machine?
Dans les tables de jeu, sauf les joueurs de poker qui sont très, très silencieux, hein, puis ça dure longtemps. On les voit, les garçons, toutes les casquettes, ils ont ça jusqu'aux yeux.
Ça peut des heures et des heures, oui.
Mais ça dure des jours. Hein. Là, c'est dans un silence absolu que ça se passe. Ce qui est le plus excitant, c'est ceux qui jouent à la roulette, là, avec la roulette. Et ça crie dans les casinos. Et ça, il y a beaucoup de jeunes aussi qui sont là et qui jouent. Je sais pas si, moi, j'ai jamais joué à ça. Je joue pas à ça, ça m'ennuie. Mais, et les autres, eux, ils seraient ennuyés devant les machines à sous, oui. Qui se complexifient de plus en plus avec la technologie. Et qui sont faites pour rendre les gens de plus en plus addictifs. Moi, j'ai rencontré ceux qui les fabriquent. Hein? Je suis allée dans l'Ouest. Je suis allée en Californie. J'ai rencontré un psychiatre dont je parle dans mon livre, qui faisait, m'a-t-il dit, dans les 7 chiffres par année. Donc, il faisait des millions. Pour conseiller les fabricants, pour leur expliquer la densité de la lumière qui devait exister, les bruits, hein? La force des bruits. Autrement dit, ce psychiatre-là, qui était, à mon avis, l'anti-éthique de son...
Parce qu'il a été formé pour aider, mais...
Il expliquait comment piéger les gens et comment les rendre accros des machines. Et moi, j'ai vu des machines comme ça. J'en ai vu en Chine, j'en ai vu à Singapour, il y en a à Las Vegas, il y en a quelques-unes à Montréal. Les gens ne jouent plus, c'est fait pour que vous oubliez que vous mettez de l'argent. Le geste de mettre des sous, ça n'existe plus. Tout ce que ces gens-là veulent, c'est que la machine continue d'être allumée comme ça, continue de les provoquer. Oui, exactement. Et ça, c'est terrible parce que là, ils sont enfermés dans ce qu'on appelle une bulle de laquelle ils sortent misérables, au fond.
J'étais surpris de voir au casino de Montréal, je suis allé deux fois là, dans ma vie, mais des machines, par exemple, de Ellen DeGeneres qui sont reliées à des personnalités. J'ai pas l'impression qu'au Québec, une machine de Véronique Cloutier, ça passerait, par exemple. Il y a moins de malaise aux États-Unis de s'associer comme
parce que les machines coûtent très cher. On ne fait pas des machines pour une consommation si petite. Ces machines-là, ça coûte des fortunes, les machines à sous. Là.
Mais j'étais surpris de l'association, de dire de monsieur, madame, tout le monde.
Oui, mais il y en a Sex and the City. On prend toutes les émissions, on prend tous les symboles du plaisir et des gens connus qui se prête à ça. Vous imaginez DeGeneres, comment est-ce qu'elle engrange avec ses machines à sous, d'ailleurs, qui ne payent pas beaucoup. Je les ai déjà jouées.
C'est pas les plus payants.
Il y a juste une fois, j'ai gagné 1000 $ mais c'est la seule fois.
Juste une fois, 1000 $ c'est quand même bien. On parlait des femmes, mais les hommes, leur relation aussi avec le jeu est-il différent?
Oui. Les hommes dans un casino, ils sont chez eux. Les femmes, elles ont pas ce rapport comme si elles allaient contrôler la machine. C'est drôle de voir des hommes. C'est comme si ça allait de soi. Tu sais, ils prennent le contrôle de la machine. En plus, les hommes dans un casino, ils deviennent. Je veux dire, c'est pas là que vous allez draguer parce que il peut pas avoir de l'adrénaline pour tout. Quand vous avez de l'adrénaline pour jouer, vous n'en avez pas pour votre sexualité. Les gens qui vont là pour draguer, et j'ai rencontré, et je le raconte dans mon livre, j'ai rencontré à Vegas un après-midi, j'étais là, j'allais voir Céline, et l'après-midi, je vais dans les casinos, et je vois une femme d'à peu près 30 ans, qui était là, et qui se faisait servir du champagne, des petites bouteilles de champagne, mais pas de la champagnette, pas du mousseux, du champagne. Et je m'installe à côté d'elle, et elle me dit, elle commence tout de suite à me parler, c'est rare ça. Et j'ai dit, mon Dieu, vous fêtez quelque chose? Elle m'a dit, c'est mon anniversaire, puis je suis seule. Alors, venez au casino. Vous me direz, c'est déprimant.
Oui, c'est triste.
C'est triste, hein? Et là, elle m'a expliqué qu'elle venait là aussi, elle, pour rencontrer des hommes, parce que dans les casinos à Vegas, elle rencontrait des gens qui n'étaient pas nécessairement des joueurs, mais qui venaient pour travailler, parce qu'il doit y avoir beaucoup d'entreprises. Et elle dit, parfois, on rencontre des gens intéressants, et puis, c'est un bon endroit, dit-elle, parce que on se fait pas harceler. Il peut pas nous harceler. Puis s'il nous harcèle, ben on a juste
on
à
lève
faire
le bras.
Ça. On lève le bras, puis c'est terminé. Et elle dit qu'un jour, elle avait rencontré quelqu'un qui était de Chicago, qui était un homme d'affaires, qui était venu faire des affaires. Puis elle dit, c'est dommage parce que il habite à Chicago, donc ça, j'aurais pas d'avenir avec lui. Mais ça, c'est très, très rare parce qu'en général, il se passe pas de choses comme ça dans les casinos. Et beaucoup de, les hommes en général n'aiment pas parler dans un casino. Les femmes vont parler. Je le vois, bien, je peux parler aux femmes. Mais les hommes, c'est très, très rare. Ils s'occupent, ils ont l'impression qu'ils vont tout contrôler. Et ceux qui pensent qu'ils vont tout contrôler, là, mais c'est ceux-là qui, à mon avis, c'est ceux-là qui sont dans le trou, comme on dit. Ça, c'est sûr. Moi, je rentre dans un casino et je pourrais vous dire, vous entrez avec moi, je pourrais vous dire les gens dont je pense qu'ils sont accros.
Ils ont un comportement. Quels sont les indices?
Ben, ils ont toutes sortes de tics de vis-à-vis des machines. Ils touchent à la machine. Ils pensent que la machine. Moi, j'ai déjà vu. Ah, c'était extraordinaire. J'ai déjà vu aux États-Unis une dame qui jouait. Deux dames noires. Une, elle jouait et ça payait pas. Et là, elle disait, je vous dirai pas des gros mots. Elle battait sa machine. Je me suis dit, mon Dieu, celle-là des enfants. C'était terrible. Elle disait, you son of a bitch, give it to me. C'était affolant de voir ça. Alors, la deuxième dame, donc, elle parle créole, donc elle est haïtienne. Et elle était devant sa machine. Et voici ce qu'elle disait. Là, on peut pas me voir parce que je suis à la radio. Elle disait, elle prenait sa main, elle flattait la machine de haut en bas. C'en était presque gênant. Puis elle disait, allez, chérie, tu me le donnes, chérie. Ah. Allez, allez. C'était, moi, à un moment donné, j'étais mal pour elle. Donc, vous voyez les gens qui ont des rapports avec la machine. Il y en a d'autres qui vont vous dire, là, je l'ai nourrie, elle va me le donner. Autrement dit, ils font ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. Ils se projettent dans la machine. Ils croient que la machine les comprend. Et je vous assure, moi, j'ai vu des gens très intelligents. J'ai vu un écrivain français qui m'a expliqué que lui jouait toujours sur la même machine parce qu'il y avait quelque chose. Il y avait une connexion avec la machine. Mais là, vous savez que vous avez affaire à des gens qui un jour n'auront plus rien s'ils n'arrêtent pas de jouer.
Est-ce qu'un des indices que moi j'ai vu, c'est quelqu'un qui a un gain, mais ben, aucun signe de joueur?
Non, en général, c'est comme ça. Les joueurs, c'est comme ça. Oui. Alors, dès que je gagne, je m'excite.
Mais il faut, hein? Là, si c'est pas,
oui,
c'est ça l'objectif.
Non. Mais vous comprenez pas que les gens qui n'ont pas gagné, ils veulent gagner. Et ce que j'ai vu de plus révélateur, c'est dans un casino français pendant le salon du livre de Nice, où j'étais, et on s'est retrouvés des écrivains dans le salon. Et dans le casino en face, parce qu'il s'est mis à tomber des cordes, alors on est allé au casino. Et là, moi, j'ai trouvé une machine, je me suis assise et au bout de 3 minutes, la machine m'a donné 2 800 €, ce qui est quand même 3 500 $. Et là, j'entends autour de moi, eh ben, c'est pas moi que ça arriverait, hein? Ah! Oh, Elle a de la chance, la dame. Enragée. Ils m'auraient...
Frustrée.
Ils auraient voulu me sauter à la gorge. Je gagne un jour 5 000 $, c'est le plus gros gain que j'ai fait, dans une machine à sous aux États-Unis. La dame qui est à ma droite, j'ai deux dames, à droite et à gauche. C'est un samedi soir, le casino est plein de monde. La dame à droite dit, « I'm so happy for you ». Et la dame à gauche me dit, « Mais c'est encourageant, parce que ça veut dire que si vous gagnez, je peux gagner. » Vous voyez la différence entre les Américains et les Français?
Jalousie.
En France, là, si, ça, on est comme ça au Québec aussi, hein, la tête qui dépasse, on n'aime pas ça. Mais aux États-Unis, ils, enfin jusqu'à ce qu'ils soient dirigés par un freak, là, par un fou, mais aux États-Unis, ils se disent, « Si elle gagne, je peux gagner. » Si les, à la limite, on disait, si il est président des États-Unis, je peux le devenir. Vous voyez? C'est, on apprend aussi. En Chine, c'est différent. Je suis allé à Macao, qui est le Las Vegas, là. Je peux vous dire que c'est comme le sous-produit du genre par rapport au casino de Macao.
On est rendu là.
Oui. Parce que c'est des casinos aussi. Il y a le Wynn, il y a les grands casinos MGM.
Ça, c'est que ça me semble une copie. Mais
non,
c'est
ah mon Dieu, il n'y a pas de commune mesure. 44 milliards de revenus par année à Macao. Hein? C'est 15-20 fois ce que rapporte Vegas. Et là, vous avez la mentalité chinoise. Je suis allée, mon mari m'a attendu, j'avais une heure pour jouer. Parce qu'on est allé voir, l'île de Macao, ça prend 1h30 en bateau. Je suis arrivé là, et ce qui est absurde et impensable quand même, c'est que l'université de Macao, elle est au milieu des casinos. Hein? Les bâtiments, c'est parce que l'île est petite, sont au milieu des casinos, ces grands casinos. Et là, je joue. Tout est en chinois, tous les claviers, mais comment je connais les machines? Je ne sais pas trop comment je joue, parce que le dollar de Hong Kong, la monnaie de Hong Kong et la monnaie de Macao, c'est deux monnaies différentes. Là, je ne sais plus comment faire.
Ça vient, mais c'est déjà des fois mêlant
oui.
Ici. Là,
oui.
Pour pas doubler la mise oui. Sans le savoir.
Alors là, je sais que si je joue à droite du clavier, c'est le maximum, donc je me tiens au milieu, quoi. Et là, je vois, puis ça... Et à un moment donné, je frappe quelque chose, là, ça, tout l'écran qui est énorme, parce qu'ils ont les machines les plus d'avant-garde sur ce plan-là, sur le plan technique, technologique. Et là, je vois bien que je gagne. Et tout à coup, je sens comme un froissement derrière moi. Parce que moi, je suis excité, mais il y a personne autour de moi. Je me retourne. Il y avait une douzaine de personnes en randonnion, comme ça. Poker face, on dirait. C'est pour rester dans notre thème. Mais personne ne sourit. Ils bougent pas, mais ils sont là, comme ça. Et au bout de la rangée, il y en a un, avec son pouce, le long de son corps, je vois que son pouce, il me fait
un
pouce en l'air en disant, tu l'as eu. Mais dans un silence, et personne ne m'a dit nice, nice.
C'est malaisant.
C'était, mais c'est parce que ça, là, vous avez la culture chinoise. Et quand je suis arrivé à la caisse, ben là, j'ai vu que j'avais bien gagné. Puis là, je suis sorti, j'ai tout donné à mon mari.
On veut savoir, vous avez gagné combien?
J'ai gagné 2 800 $ américains. Je l'ai demandé en dollars américains.
Vous parliez dans votre livre de l'exception française. Est-ce que c'est vraiment sur, justement, l'attitude des joueurs ou c'est différent du reste du monde?
Les Français sont des gens, il y a une expression qui ne se traduit pas en anglais, c'est la joie de vivre. Et les Français, ils savent organiser le plaisir, ils savent organiser des fêtes, ils savent organiser des cérémonies. Vous avez juste à voir comment ça se passe. Mais pour les casinos, comme ils tolèrent les casinos, ce sont pas des casinos d'État. Il y a juste au Québec où ça appartient à l'État. C'est géré par les gens, c'est géré par les fonctionnaires. Ça, c'est comme ça nulle part dans le monde. Mais eux, c'est des casinos privés. Il y a deux grands groupes qui possèdent les casinos, et ce sont des petits casinos. Hein, le plus gros, il y a à peu près 400 machines à sous. Il y en a quelques milliers. Il doit en avoir plus que 1 500. Là, je veux pas me tromper sur les chiffres au casino de Montréal. Plus que ça même. Puis aux États-Unis, vous avez des casinos, il y a 4 000 machines à sous. Donc, ils tolèrent et ça paraît. Et les casinos sont minables. Dans les petits villages, il y a des casinos partout, près des stations balnéaires. Et c'est des tout petits casinos. Il y a très, très peu de machines. Les gens se battent pour pouvoir jouer. Et donc, c'est pas là qu'on va pour rire, quoi. Hein, c'est juste toléré parce que ça rapporte de l'argent, c'est tout.
Denise Bombardier, merci. On va se reparler du jeu dans notre prochaine balado où, entre autres, on va parler de psychologie, de solitude, mais de vos trucs pour gagner, parce que vous avez des trucs pour gagner.
J'en ai un. Je vous le dirai plus tard.
Parfait, on manque pas ça.
Contenu, Denise Bombardier. À l'animation, c'est moi-même, Vincent Dessureau. Montage et réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Une production de Cube Radio.